Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la volonté de Dieu est d'accorder à chacune de ses créatures le meilleur qui puisse lui convenir. C'est pour cela qu'il faut se convertir, se tourner vers lui, dans la repentance et dans la foi, et ensuite lui confier les rênes de notre vie, lui laisser diriger tous les domaines de notre existence. Car c'est ainsi qu'il va pouvoir accomplir les promesses de sa parole dans notre vie, qu'il va pouvoir exaucer nos prières, qu'il va pouvoir répandre sur nos vies sa bénédiction, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. En même temps, il veut nous faire réaliser des expériences de foi, de manière à ce que nous puissions de mieux en mieux réaliser combien il est bon, tout-puissant, activement présent, rempli de compassion et de miséricorde, et que nous puissions d'autant mieux nous attacher à lui comme des enfants confiants et reconnaissants envers un père aimant, le meilleur des pères en fait. Voici un témoignage. Ce témoignage a pour titre « Quelque chose de mieux ». C'est un témoignage donc d'une femme qui a vécu donc à peu près vers la moitié du 20e siècle aux États-Unis. Et voici donc ce qu'elle raconte. « Il y a plusieurs années, nous habitions, mes deux fils et moi, une vieille ferme sans confort, car mon mari nous avait laissés. » Avec le mince revenu que j'avais, il m'aurait été impossible d'élever mes deux garçons si je n'avais pas eu le Seigneur. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Voilà pourquoi, en m'éveillant ce certain matin, je ne m'inquiétais pas de voir que la température était tombée au-dessous de zéro. Je mis les derniers morceaux de charbon dans la vieille cuisinière et les dernières bûches dans le poêle. Nous aurions ainsi un déjeuner bien chaud, et quand les enfants auraient pris le bus pour aller à l'école, j'irais à la plus proche cabine téléphonique, environ à 1200 mètres, et j'appellerais la compagnie charbonnière. On m'apporterait le charbon que j'avais commandé la semaine précédente. « Je regrette, madame, » me répondit l'employé. « Les routes sont trop glissantes pour aller jusqu'au dépôt. Notre réserve est limitée et nous ne livrons à chaque client que 500 kilos, payables à la livraison. » « Écoutez, commençais-je à supplier, mon chèque mensuel a du retard, je n'ai pas d'argent. Je vous payerai dès qu'il arrive, mais je dois avoir du charbon. J'ai deux petits-enfants, pas de charbon, pas de bois, aucun feu à la maison. »« Désolé, madame, pas d'argent, pas de charbon. C'est la règle pour aujourd'hui. Si votre chèque arrive, téléphonez et nous vous livrerons le charbon. » J'étais un peu déconcerté, mais je pensais que le Seigneur pourvoirait et qu'il enverrait le chèque au courrier de midi. À mon retour, les deux feux étaient éteints. Je passai une autre jaquette de laine sous mon manteau et je m'agenouillai pour prier. Si seulement Henri venait, pensais-je. Henri était un vieillard de 80 ans qui nous coupait le bois et faisait de petits travaux trop pénibles pour moi. Il n'était pas venu depuis plusieurs jours. Bien sûr, il se mettrait à rire s'il me trouvait en prière, car il prétendait qu'il n'y a pas de Dieu et que la prière est un non-sens. J'avais essayé de le persuader, et bien des prédicateurs avant moi, mais il se moquait de notre crédulité. Très aimable, bien des fois, il nous avait apporté une aide précieuse. Il penserait certainement à nous, aujourd'hui. Oh, le facteur ! Je me précipitais pour aller à la boîte aux lettres. Hélas, il passa sans s'arrêter. Pas de chèque, pas de charbon. Qu'allais-je faire ? Si seulement quelqu'un venait, peut-être un membre de l'Église. C'est ça. Dieu donnerait certainement cette idée à l'un d'eux. Je vis justement un diacre de notre église et sa femme passer sur la route. Il s'arrêterait sûrement quand il rentrerait. Je m'apprêtais à boire un peu de café froid et à manger un morceau en les attendant. Du café froid, ce n'était qu'un morceau de glace dans la cafetière. Et l'eau était également gelée dans le seau. Dieu m'aurait-il oublié ? Je regardais par la fenêtre juste à temps pour voir passer mes amis qui ne jetèrent même pas un regard en direction de la ferme, tellement ils avaient peur de tomber sur la glace. J'avais froid, tellement froid. Les enfants allaient rentrer de l'école. Comment pouvais-je leur expliquer que ma prière n'avait pas été exaucée ? Le bus arriva. « Seigneur, murmurai-je, tu n'as pas répondu à mon cri aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Seigneur, les garçons sauront que j'ai prié. Je te prie, aide-moi à leur expliquer pourquoi la maison est froide, la caisse à charbon vide, de telle façon qu'ils ne perdent pas la foi. » « Ils entrent maintenant, Seigneur, je te supplie, aide-moi, donne-moi les paroles que je dois leur dire. »« Enfant, dit-elle, je suis bien triste, mais nous n'avons pas de charbon. Nous mangerons quelque chose de froid, et puis nous irons vite au lit pour nous réchauffer. » Tu n'as pas prié pour avoir le charbon, maman ? Demanda le plus jeune de mes fils. Si, mon chéri, mais... À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit et Henri entra. À la vue de mes bottes et de tous mes chandails de laine, il s'exclama « Mais tu as vraiment si froid ?»« Oui, » répondis-je. « Le café et l'eau sont deux morceaux de glace et moi je le suis presque aussi, » dis-je en riant. « Cela ne peut pas continuer ainsi. Je vais couper un peu de bois et j'enverrai mon fils avec quelques sacs de charbon. J'ai pensé à vous tout le jour. Trois fois je me suis mis en route, mais j'ai dû rebrousser chemin à cause de la glace. Mais il m'était impossible d'aller au lit sans venir faire un tour. » Il se mit en hâte à couper du bois et à le disposer dans la cuisinière et dans le poêle et s'apprêta à rentrer chez lui en promettant de revenir le lendemain. Avant de fermer la porte, il ajouta « Je suppose que tu as dû prier ?»« Oui, répondis-je, j'ai prié tout le jour. »« Tu vois bien, dit-il d'un ton triomphant, Dieu ne t'entend pas, il ne t'exauce pas. Il a fallu un vieillard comme moi pour prendre soin de vous trois. » « Si, il y a un Dieu, répondis-je, et il s'est servi de vous pour répondre à ma prière. Pourquoi avez-vous dû penser à nous tout le jour ? Dieu ne vous a pas permis d'aller au lit sans venir ici. » Il rit et s'en alla. Le lendemain, il revint, coupa encore du bois, puis entra dans la cuisine pour se réchauffer. Je l'invitai au repas de midi, mais il refusa et prit le chemin de sa maison. Il y avait quelque chose de changé en lui. Je le regardai partir. Deux fois, il s'arrêta. Puis, la troisième, il revint sur ses pas. « Dis, ton invitation tient encore. Je veux te parler. » Quand nous nous mîmes à table, il me demanda de prier. J'étais sûr que c'était pour se moquer, mais je priais. Tandis que nous mangeions, un camion arriva et déchargea 2 tonnes de charbon dans notre cave. Il n'y avait aucune lettre d'accompagnement et personne ne peut me dire qui m'envoyait cela. Il n'y avait aucune facture non plus. Quand nous eûmes fini de prier, Henri me demanda de jouer quelques cantiques. Il aimait la musique, et bien que cela paraisse étrange, surtout les cantiques. Aujourd'hui, j'étais si heureuse de jouer les cantiques. Dieu était si près de moi. Je jouais plusieurs hymnes, entre autres « Tel que je suis, sans rien à moi ». Tout à coup, j'entendis un bruit étrange. C'était Henri. Des larmes abondantes coulaient sur ses joues. Dans un sanglot, il me dit « Ne fais pas attention à moi, je ne peux pas m'empêcher de pleurer ». Je n'ai jamais versé une larme, même à l'enterrement de ma mère. Mais aujourd'hui, impossible de m'arrêter. Oh, sanglotait-il, j'ai fait le mal. J'ai fait le mal toute ma vie. Dieu existe, je le sais maintenant. Mais pourquoi s'est-il servi d'un vieillard fidèle comme moi pour exaucer tes prières ? C'est parce qu'il voulait se révéler à vous, répondis-je. Christ est mort pour vous aussi, vous savez. Ne voulez-vous pas lui demander de vous pardonner et commencer une vie nouvelle avec lui ? Si, s'il veut de moi, fut sa réponse. Les gens se demandèrent pourquoi Henri avait tellement changé et la raison de ce changement. Il ne discutait plus, ne se moquait plus et ne manquait jamais le culte chaque dimanche. Quelques-uns ne pouvaient comprendre, mais moi, je savais bien. Dieu avait répondu non plusieurs fois en ce certain jour glacial où je lui demandais de l'argent pour 1/2 tonne de charbon. Et cela afin de pouvoir m'en donner 2 tonnes gratuitement, et surtout pour qu'un incroyant puisse le trouver. Combien il est merveilleux de constater que si parfois Dieu n'exauce pas notre prière, c'est pour pouvoir nous donner quelque chose de bien meilleur. Voilà le désir de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui. Voilà, bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Et nous allons avant toute chose prier. Merci notre Dieu de pouvoir nous confier ainsi en toi, de pouvoir réaliser cette merveilleuse possibilité de faire avec toi des expériences de foi, comme ce témoignage nous y invite d'ailleurs. Et merci parce que par ta parole aussi, tu veux faire et accomplir l'œuvre du salut et de la vie éternelle dans les cœurs. Merci notre Dieu. Amen. Nous lisons dans Actes 28 au verset 23. La chose suivante. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Voilà. Voici le seul moyen qui puisse nous permettre de calculer justement les résultats de notre ministère. Nous ne voulons que deux colonnes dans notre livre de comptes. D'un côté, nous devons inscrire la longue liste de tous ceux qui ne croient pas, et de l'autre côté, nous pouvons faire entrer ce qui est trop souvent le moins grand nombre de ceux qui croient. C'est le seul moyen, répétons-le, par lequel nous puissions tenir un compte pour certifier le vrai profit de la prédication de l'Évangile. Nous ne pouvons pas estimer le bien qui est fait par le nombre d'auditeurs. C'est une chose très réjouissante que de voir la maison de Dieu remplie à déborder. C'est une très grande joie. Mais au lieu d'être un avantage pour ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'ont pas cru, cela augmentera plutôt leur responsabilité et finalement la gravité de leur perdition. Quel malheur pour ceux qui, ayant des oreilles, ont entendu comme s'ils n'entendaient pas. Nous ne pouvons pas non plus calculer le résultat de notre travail par le nombre de personnes satisfaites de notre ministère. Quel homme qui n'est pas encouragé quand il entend que ses auditeurs ont apprécié son message. L'amour de la louange fait partie de la nature humaine. Mais le serviteur de Dieu n'a pas à vivre de l'approbation humaine. Celui qui aura prêché fidèlement, même si certains étaient mécontents, aura toujours un secours et une assurance de la part de Dieu. Mais de ne pas avoir prêché fidèlement, d'avoir retenu une partie de la vérité pour avoir l'approbation de tous, voilà qui serait un passeport pour la perdition finalement. Non, si notre ministère devait seulement servir à plaire aux hommes, il ne serait bon à rien. Un message fait souvent beaucoup de bien à quelqu'un quand il le met en colère. Tel homme qui se dirige vers la porte en se disant « Je ne viendrai plus jamais écouter ce prédicateur » a très souvent eu la flèche du Saint-Esprit plantée dans son dos. Et comme il souffre d'une blessure qu'il n'y a que Dieu qui puisse guérir, il est fort probable qu'il revienne bientôt et dans de meilleures dispositions. D'autres, hélas, qui sont très contents, très réjouis, entreront et sortiront de ce lieu aussi peu impressionnés et aussi impossibles à impressionner que des plaques de marbre sur lesquelles l'huile coule sans laisser la moindre trace. Nous ne devons pas non plus nous hâter de calculer les efforts du ministère par le nombre de personnes favorablement impressionnées par de sérieuses convictions. Bien sûr, c'est un signe encourageant quand des âmes pleurent à cause de la parole de Dieu et ont été touchées dans leurs sentiments. Mais quand le prédicateur ne fait appel qu'au sentiment naturel, le bien qui en sortirait ne tiendra pas. Quand le prédicateur peut faire de ses émotions naturelles une plateforme pour travailler la conscience et la volonté, alors c'est autre chose, c'est une bonne chose. Mais s'il n'a réussi qu'à tirer des larmes amères des yeux de ses auditeurs, elles peuvent couler jusqu'à ce que le carrelage de la salle soit inondé, elles n'auront aucun résultat salutaire en elles-mêmes. Il faut que cela aille bien plus loin que les yeux. Il faut que ce soit le cœur qui pleure. Il faut qu'il y ait des larmes de repentance à cause du péché, pas seulement des larmes de regret à cause des mauvaises conséquences du péché qu'on a eu à souffrir. Il est nécessaire d'avoir des émotions qui viennent d'une conscience touchée profondément, et non celles qui viennent d'un manque de soumission à la volonté de Dieu. Il faut que tout cela aboutisse à une foi sincère, à une volonté décidée à se soumettre à Dieu et qui commence à obéir pratiquement à la parole de Dieu. Ah mes amis, le résultat n'est pas atteint, même si nous avons prêché 1000 fois, tant que nous ne pouvons pas marquer que certains ont véritablement cru au Seigneur Jésus pour suivre sa parole. Voici en introduction. Et puis maintenant, notre premier grand point, c'est-à-dire que consiste à rappeler que même avec le meilleur des ministères, les résultats seront divers et il faudra 2 colonnes pour en faire le compte. Il y en aura toujours certains qui croiront et d'autres qui ne croiront pas. Ce n'est pas toujours uniquement la faute du prédicateur, car même quand Paul a prêché, et quel prédicateur modèle ! Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point, est-il écrit là. Combien pourtant nous pouvons prouver clairement que Paul était un prédicateur modèle? Premièrement, il était un prédicateur modèle en ce qui concerne la matière. Il y a des personnes qui aiment bien ceux qui prêchent la doctrine. Comme un maître d'œuvre met les pierres en place dans l'édifice, une ici, l'autre là, chacune à son emplacement. Quand elles vont à la maison de Dieu, elles disent qu'elles veulent apprendre quelque chose, discerner d'une façon plus profonde les grandes vérités bibliques. Elles ne sont pas satisfaites jusqu'à ce que leur compréhension et leur raisonnement soient rassasiés. Elles ne prennent pas tellement garde aux appels passionnés, elles désirent que leur esprit soit éclairé. C'est pourquoi un prédicateur de doctrine est un homme très utile, surtout s'il ne se perd pas dans les controverses et les détails insignifiants. Et qui prêchait mieux la doctrine que l'apôtre Paul ? Si vous voulez la doctrine la plus élevée, lisez l'Épître aux Romains. Si vous voulez un système de vérité clair et bien construit, lisez l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre ne retenait rien de ce qui était le plus profitable aux gens. Il pouvait dire « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher ». Pour lui, il n'a jamais été question de se demander quelle partie de la vérité plairait le plus au peuple. Il leur en a enseigné la totalité au temps convenable. Mais même du temps de l'apôtre Paul, il y en avait qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas. Et aujourd'hui encore, il y en a qui, entendant l'Évangile, quel que soit le ministère, ne se convertiraient pas, ne seraient pas convertis même s'ils avaient entendu Paul. Puisque vous avez Moïse et les prophètes avec vous, si vous ne croyez pas en eux, vous ne croiriez pas non plus même si un apôtre ressuscitait des morts. Ensuite, deuxième élément de ce premier grand point, c'est qu'il y en a qui disent préférer un prédicateur d'expérience. Ah, j'aime beaucoup moi aussi un prédicateur d'expérience. Parce qu'il sait entrer dans le cœur d'un homme, voir ce qu'il y a. Il connaît son propre cœur et bien d'autres aussi. Il sait ce que je suis, ce que je ressens. Si je suis dans la détresse, il a été dans la détresse aussi. Il peut parler de mes tentations, de mes épreuves, puisqu'il les a connues également. S'il y a quelque chose d'incompréhensible dans ma vie intérieure, il peut m'aider à le comprendre, parce qu'il y est passé lui-même. Oui, il est fort possible que des différentes sortes de prédicateurs, le prédicateur d'expérience soit le plus utile, car un ministère sans aucune expérience doit être quelque chose de pauvre, de misérable et d'insipide pour le peuple de Dieu. Mais nous voyons bien que dans ce domaine, l'apôtre Paul lui-même était un parfait modèle. C'est lui qui comprenait les conflits du cœur humain quand il disait « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et encore « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? Et encore, qui est faible que je ne sois faible ? Qui est tenté que je ne brûle ?» Et ainsi, il exprime les combats intérieurs que peut ressentir tout homme, et spécialement le croyant. D'un autre côté, quand nous avons un esprit rempli de joie et de gloire, l'apôtre peut aller avec nous et plus loin que nous, puisqu'il a été ravi au troisième ciel, et qu'il a entendu là des choses ineffables qu'il n'est pas possible à un homme d'exprimer. Êtes-vous rempli d'assurance et de confiance ? Alors Paul vous prêche à partir de ce texte. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans Romains 8, verset 39. Êtes-vous rempli d'appréhension et de crainte ? Alors, il craint et tremble avec vous. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché à d'autres. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais soyez bien persuadés que si vous avez entendu la prédication de l'Évangile et demeurez un incrédule malgré cela, vous ne vous convertirez jamais, même si la prédication remplie d'expérience de l'apôtre était introduite et présentée à votre connaissance et à votre conscience. Car même de son temps, il en est qui n'ont pas cru, et nous pouvons donc considérer qu'il en est de même aujourd'hui. Et puis, vous avez encore le prédicateur pratique, et beaucoup l'admirent aussi celui-là. C'est vrai, le prédicateur pratique est très bien utile. L'homme qui me dit précisément quel est mon devoir dans ma vie personnelle, dans telle ou telle situation concrète, qui me parle en tant que mari, ou que patron, ou qu'ouvrier, ou que père, ou que fils, qui m'indique comment, selon la parole de Dieu, je dois me comporter dans la semaine à venir. Un tel homme est utile. Et qui l'a fait aussi bien que l'apôtre Paul. La même épître aux Éphésiens, qui contient un modèle parfait de doctrine, contient aussi les préceptes pratiques de l'Évangile pleinement exposés. Enfants, parents, pères, maris, serviteurs, maîtres, l'apôtre, un mot pour chacun et tout un enseignement pour chacun. Il est avant tout très pratique, basant ses appels à une conduite juste sur l'un ou l'autre motif divin. Et c'est pourquoi si parmi nous, il y en a qui ne se sont pas convertis, je n'ai aucune raison de croire que c'est parce que les prédicateurs ont manqué sur le point pratique. Car même si vous avez entendu l'apôtre qui était un modèle dans ce domaine, il est possible que vous ne soyez pas convertis, car en l'écoutant, certains ne crurent point, est-il écrit. Et puis, en quatrième, dans ce chapitre, il y a ceux pour lesquels ce n'est pas tellement la matière, mais surtout la manière qui compte. Et nous pouvons donc démontrer que l'apôtre Paul était un prédicateur modèle en ce qui concerne la façon, en ce qui concerne la manière. Il était un prédicateur courageux. Il n'a jamais craint aucun homme, mais a prêché juste ce que le Seigneur lui demandait de dire. Comme le Seigneur lui demandait de le dire, que les hommes écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils soient favorables ou hostiles. Il était un prédicateur éloquent. Barnabas n'était pas un faible prédicateur. Mais Paul était meilleur que lui sur ce plan-là, car à Lystre, ils appelèrent Paul Mercure, et Mercure était leur dieu de l'éloquence. Il est possible que la conclusion du chapitre 8 de l'Épître aux Romains soit le plus remarquable exemple de langage humain connu. Celui qui l'a écrit était un maître, capable de s'élever avec les ailes de l'aigle à de grandes hauteurs, mais volant la plupart du temps près du sol. Il était un profond penseur, capable de l'argumentation la plus difficile. Mais il aimait à parler simplement, pour exposer clairement la grâce de Dieu et que tous soient à portée de le comprendre. Quand l'occasion le rendait nécessaire, comme un orateur passionné, ses tonnerres pouvaient faire trembler un Festus, ses appels pouvaient arracher une confession au roi Agrippa. Mais pour enseigner l'Église de Dieu, il parlait comme un enfant, et les nouveau-nés dans la grâce étaient nourris par son ministère de ce lait spirituel et pur, afin qu'ainsi ils croissent pour le salut. C'était aussi un prédicateur rempli d'affection, en même temps que courageux et éloquent. Il aimait les âmes des hommes. Il ressentait parfois un tel désir de sauver les âmes qu'il aurait été prêt même à perdre sa propre âme, pourvu qu'il puisse sauver celle des autres. Oh, dira quelqu'un, mais ce sont là des paroles et des sentiments exagérés. Oui, l'amour est parfois exagéré. Et j'aurais bien du mal à croire qu'un homme peut éprouver de l'amour quand il est toujours en train de parler sur un ton froid et calculateur. L'amour doit parfois parler par des paroles exaltées qu'il ne prononcerait pas en d'autres moments. Ah, c'est un esprit semblable à celui de Moïse quand il dit « Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit » dans Exode 32, au verset 32. Paul lui a dit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites » dans Romains 9, au verset 3. Ah, comme les critiques et les commentateurs ont souvent trébuché sur ces deux passages, ils ne pouvaient pas l'expliquer, ils ne pouvaient pas les comprendre. Mais il est vrai que Paul ressentait exactement ce qu'il disait. Tant le désir de voir ses âmes se convertir était grand. Et puis, c'était aussi un prédicateur rempli de puissance. Que de miracles de préservation, de protection Dieu avait accompli pour lui. Réchappé miraculeusement de 3 naufrages, de supplices mortels, de lapidations, de persécutions en tout genre. Que de miracles de guérison et de délivrance opérés par ses mains. Aveugles, paralytiques, boiteux, sourds et muets, démoniaques, possédés. Tous en grand nombre avaient vu la puissance de Dieu intervenir pour eux en accompagnement de cette prédication. Jusqu'à des linges qui avaient touché son corps et qui avaient apporté la guérison à beaucoup qui n'avaient pas pu venir. Les esprits mauvais eux-mêmes connaissaient Jésus et savaient qui était Paul. Lui-même disait « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » 2 Corinthiens 12, verset 12. Nous voyons donc que cet apôtre rempli d'éloquence, d'amour, d'un saint courage, de la puissance de Dieu, cherchant les âmes et les pressant de se convertir, les exhortant nuit et jour avec beaucoup de larmes, était un prédicateur fidèle et parfait autant qu'un homme peut l'être. Oh, dira quelqu'un, comme j'aurais voulu l'avoir comme pasteur. Oui, mais êtes-vous converti à Dieu? Car si vous ne l'êtes pas, je ne suis pas sûr que vous le seriez, même si vous aviez Paul comme pasteur. C'est pourquoi il faut que vous veniez à Jésus dès aujourd'hui. Et tout ceci nous amène à notre deuxième grand point, parce que dans notre verset de départ, nous avons vu qu'il y a 2 sortes de personnes, et des conséquences aussi pour chacune de ces catégories. En premier, il y a certains qui ont cru. Ils sont venus probablement dans différents états d'esprit. Certains ressentent, pour une raison ou une autre, un profond besoin. Des problèmes sans solution, une maladie incurable, un découragement, des déceptions de l'existence. une insatisfaction de ce que le monde leur propose. La recherche d'un sens véritable, éternel, juste à cette vie. Une soif de communion avec Dieu, de pardon du péché, de joie, de sainteté divine. Et ils ont entendu cette parole de Dieu, les témoignages de ce que Dieu accomplissait pour confirmer cette parole, un discours sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, un exposé des souffrances de Christ et de la gloire dont elles ont été suivies et seront suivies, une démonstration de la nécessité de l'œuvre de Christ pour eux, de sa perfection, de ses implications et conséquences, tant sur la terre que dans les cieux, tant dans le présent que dans l'éternité. Un rappel des prophéties et de la façon admirable dont beaucoup déjà sont accomplis, et dont il en reste encore à accomplir. Un appel, bien sûr, à regarder à Christ, celui qui pardonne, qui délivre, et qui seul peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ils ont été profondément touchés par la parole de Dieu et ils ont cru. Ils ont été touchés dans leur conscience, réalisant leur état de péché, de culpabilité, de perdition. Leurs convictions précédentes ont été comme brisées et réduites en poussière l'une après l'autre, sous le puissant marteau de la parole de Dieu, au moins dans ce qui était erroné. Le message semblait être spécialement pour eux et n'épargnait rien, même de ce qui est le plus secret. Ils ont été touchés dans leurs sentiments et leurs émotions en réalisant la grandeur de l'amour de Christ. Ils ont été bouleversés dans leur raisonnement et leur compréhension des choses en voyant combien l'œuvre de Dieu est juste et combien sa folie même est plus sage que la plus grande sagesse humaine. Ils se sont repentis de leurs péchés qu'ils ont voulu abandonner tous, sans exception, les confessant devant lui et les réparant dans la mesure de leur capacité. Ils se sont, comme il est marqué dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ils ont regardé à Jésus pour marcher dans la voie de l'obéissance à sa parole et à son amour. Et alors, quelle merveilleuse conséquence ! Le lourd fardeau a roulé au fond du sépulcre. La vie véritable a commencé pour eux. Les chaînes ont été brisées. Ils ont enfin été libres. Ils pouvaient danser de joie et de bonheur. La paix coulait dans leur cœur comme un fleuve. Dans les rayons de Christ, soleil de justice, il y avait une pleine guérison. Dans ses meurtrissures, une pleine guérison. La bénédiction les entourait de toutes parts, puisqu'ils avaient cru et étaient venus à lui de tout cœur. Amen. Mais il nous faut parler aussi de ceux qui ne croient pas. Alors il y en a de différents caractères. Certains ont entendu l'Évangile depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont connu des lieux de culte depuis leur enfance, mais n'ont pas encore cru à Christ. Il en est d'autres qui ne vont pas ou pas souvent dans une maison de prière. Ils sont parmi ceux qui ne croient pas, et beaucoup d'entre eux essaient de tranquilliser leur conscience en prétendant qu'ils ne croient pas que la Bible soit vraie, qu'elle soit la parole de Dieu. Ils se nomment athées ou déistes ou libres penseurs, et ont toujours dans leur cœur une conscience qui n'est pas à l'aise. L'homme sait qu'il lui manque quelque chose, il ne sait pas quoi. Mais il n'y a que la croix de Christ et la foi en un Sauveur crucifié qui peut répondre aux besoins intérieurs de la nature humaine. Certaines de ces personnes qui ne croient pas sont très morales peut-être. Il peut y avoir telle personne admirable, aimable, à sa propre idée, mais qui sera perdue à cause de cela. Il y a tel jeune homme qui peut être rempli d'intégrité dans les affaires, au point que son employeur lui confierait une grosse somme d'argent sans la compter. Et avec un manque de logique étrange, il s'appuierait sur cette seule vertu qui lui procure l'estime des hommes, pour couvrir un millier de vices qui proclament son éloignement de Dieu. D'autre part, il y en a beaucoup qui sont dans la débauche et qui vont très loin dans le péché et qui ne veulent pas croire à cause de cela. Mais il nous faut les mettre tous ensemble. Il n'y a pas de troisième groupe. Ou bien vous croyez, ou vous ne croyez pas. Bénissez Dieu si vous avez placé votre foi en lui. Mais sinon, quelle terrible situation que la vôtre. En conclusion, mes amis, où tout cela nous mène-t-il? Cela nous mène à conclure en divisant, oui, cette salle dans laquelle je suis, dans laquelle nous sommes souvent pour prêcher l'Évangile. En Angleterre, à la Chambre des communes, il y avait une coutume, c'est que lorsqu'un représentant avait beaucoup parlé pour donner son opinion, qu'un autre se levait pour dire ce que beaucoup ne voulaient pas entendre, c'est-à-dire probablement l'avis contraire, alors ceux-ci se mettaient à crier « Divide, divide !» c'est-à-dire « Divisez, divisez, séparez !» Alors le Parlement se séparait, et les « oui » sortaient d'un côté et les « non » de l'autre. Nous pourrions facilement faire de même dans notre Église. Ceux qui croient véritablement, qui engagent leur vie pour Christ, sortiraient par une porte d'un côté. Ceux qui ne croient pas vraiment, qui ne veulent pas s'engager pour Christ de tout leur cœur, sortiraient de l'autre côté. D'un côté, les sauvés. De l'autre, les perdus. Mais savez-vous, j'ai peur qu'il y en ait un certain nombre qui diraient « Ah bien, je ne peux pas bien aller de ce côté, je n'oserais pas dire que je me suis vraiment confié en Christ pour le suivre et lui obéir. Et pourtant, je n'ose pas aller de l'autre côté, c'est une chose si terrible que d'aller avec ceux qui ne croient pas. Je vais rester debout ici, au milieu de la salle. » Ah, mes amis, non, ce n'est pas possible dans cette réalité-là. Il n'y a que deux endroits, le ciel et la perdition. Et il n'y a que deux sortes de personnes, les bons et les méchants. Nous savons d'après la parole de Dieu, d'une façon absolument certaine, que tous ceux qui sont morts sont allés soit en enfer parce qu'ils n'ont pas cru, soit au ciel parce qu'ils ont cru, et nous savons qu'il n'y a jamais eu de passage de l'un à l'autre. Un homme, quand il est mort, est bien mort, ou alors il est en vie. Il n'y a pas de terrain neutre, et il n'y a pas de possibilité de s'arrêter entre deux opinions. Car pour la plupart, ceux qui veulent s'arrêter entre deux opinions ont une opinion. Ils ne veulent pas servir le Seigneur et cherchent un moyen d'échapper à leurs devoirs et d'échapper aux conséquences de leur choix. C'est pourquoi réfléchissons maintenant de tout notre cœur. Êtes-vous condamné ou êtes-vous sauvé? À la fin d'une réunion comme celle-ci, l'invitation avait été donnée à inscrire sur un petit morceau de papier. Des morceaux de papier avaient été distribués et chacun devait inscrire sur son papier le mot « condamné » ou le mot « sauvé ». Et voici un jeune homme qui, après avoir réfléchi, a écrit « condamné ». Puis il a regardé ce papier et il a réalisé qu'il avait mis cela lui-même. Et en regardant, il fondit en larmes et son cœur se brisa. Et avant peu, il vint à Christ, se convertit véritablement, mit le papier dans le feu et ensuite il put écrire « sauvé ». Souvenez-vous que vous êtes l'un ou l'autre. Vous êtes ou condamné ou sauvé. Ne demeurez pas dans l'indécision. Et souvenez-vous aussi que si vous êtes encore condamné aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en perdition. Il y a encore de l'espérance pour vous. Béni soit Dieu, Christ est encore élevé, et quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. La porte de la gloire n'est pas fermée, vous pouvez encore venir à lui. La proclamation de la grâce n'est pas rendue silencieuse. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre pour ouvrir les yeux des aveugles et déboucher les oreilles des sourds. Il vous est prêché encore que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et vous pouvez recevoir cette vie dès aujourd'hui. Confiez-vous en Jésus, venez à lui maintenant, qu'ainsi votre nom soit inscrit parmi ceux qui croient et non avec ceux qui ne croient point. Amen. Te remercions, Seigneur, c'est encore toi qui veux accomplir vraiment une œuvre bénie dans le cœur de ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Notre Dieu, quand nous venons à toi, nous avons besoin du secours d'en haut pour pouvoir véritablement être sauvés, mais béni soit ton nom, c'est toi qui l'accordes, c'est toi qui le donnes à tous ceux qui se tournent vers toi en simplicité et en sincérité de cœur. Et tu vois et tu connais, parmi ces bien-aimés qui écoutent, ceux qui ont maintenant cette bonne disposition, et tu veux les y encourager, les y soutenir et les y fortifier. Merci mon Dieu, béni sois-tu pour ton œuvre. Amen. Amen. Et voilà mes amis, frères et sœurs, en conclusion, quelques annonces simplement pour vous rappeler que l'évangélisation dans les villages doit se tenir demain après-midi. Le rendez-vous est à 14h30 à l'église. Nous travaillerons dans la distribution en boîte aux lettres et bien sûr nous resterons, suivant les instructions, dans la limite des 10 km, mais il y a de quoi faire. Ensuite, pour le culte dimanche, c'est toujours à 8h30 ou à 10h45, suivant votre possibilité en tout cas. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. La réunion de prière a toujours lieu mercredi à 16h pour l'instant. Ce n'est pas la peine de s'inscrire pour y participer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, et tout particulièrement si aujourd'hui vous décidez de faire clairement le choix pour lui. Amen.